Ce que nos cœurs ressentent, ce que la parole de Dieu nous dit et ce que nous croyons s'exprime aussi dans les cantiques. Avant nous, il y a déjà eu des gens, des hommes qui ont chanté ce que nous vivons actuellement. Ils ont déjà ressenti et su par l'esprit que cela allait arriver. Les prophètes de l'Écriture ont prédit ce qui allait arriver. De même, les poètes ont déjà exprimé ce qui allait arriver. Et nous pouvons avoir reçu, nous avons eu la grâce de recevoir cette grâce, de vivre en ce temps où tout s'achève vraiment. En effet, il n'y a jamais eu d'époque aussi importante dans l'histoire du salut. Les deux générations, l'une avant ou lors de la première venue de Christ et la seconde maintenant avant son retour, sont en effet les plus importantes dans l'histoire du salut. Et nous pouvons vivre par la grâce maintenant. Et pas seulement vivre, mais avoir reçu la vie de Dieu. Nous laisser mettre en accord avec la parole. Il y a bien quelques milliards d'êtres humains sur Terre, mais très peu en ce moment qui ont trouvé grâce devant Dieu. On pourrait être effrayé en comparant cette petite foule avec la grande, comme si elle ne... Et donc, en comparaison avec cette grande qui ne vient pas au Seigneur, n'est-ce pas? Et pourtant, nous devons tous laisser à Dieu et être reconnaissants qu'il nous ait appelés à lui et que nous puissions être sa propriété. Poursuivons notre observation de la parole et laissons-la à nouveau habiter parmi nous en abondance la parole de Dieu. Je voudrais lire les versets 4 et 6. 4 jusqu'au verset 6 du prophète Agée, chapitre 2. Agée, chapitre 2, versets 4 à 6. Maintenant, prends courage, Zorobabel, c'est la déclaration de l'Éternel. Et prends courage, Josué, fils de Jotsadak, toi le souverain sacrificateur. Et prenez courage, vous tous, qui formez le peuple du pays. C'est la déclaration de l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous. C'est la déclaration de l'Éternel des armées. Le verset 5, la promesse que je vous ai faite solennellement lors de votre sortie d'Égypte demeure. Et mon esprit agit au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et la terre ferme. Si nous reprenons les parallèles de cette parole dans le Nouveau Testament, nous remarquons que le rédacteur des lettres aux Hébreux a compris qu'il ne s'agissait pas seulement du temps d'alors et de ce qui était fait, mais que, comme nous l'avons déjà si souvent souligné, la prophétie se cache partout. Et par grâce, nous pouvons simplement le voir et le comprendre. L'Esprit de Dieu sonde tout et nous fait connaître les contextes. Je crois que c'est écrit dans Hébreux au chapitre 12 que Dieu ébranlera encore une fois la terre et le ciel. Et c'est là aussi que le contexte nous est montré. Hébreux chapitre 12, versets 26 et 27. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Le verset 27 nous est dit en comme explication. La parole, encore une fois, indique la transformation de ce qui est ébranlé. Parce que c'est une chose créée. Il est justement en résulter quelque chose de permanent qui ne peut être ébranlé. L'apôtre se réfère ainsi déjà à la fin des temps, à la fin des temps derniers. En effet, Dieu ébranlera encore une fois le ciel et la terre, comme il le fait dire ici dans le prophète Agé au verset 5. La promesse que je vous ai faite solennellement lors de votre sortie d'Égypte demeure. Il ne peut en être autrement. Ce que Dieu a dit, ce qu'il a promis, doit demeurer, doit subsister. C'est la seule chose qui a de la substance, qui demeure, à savoir Dieu et ce que Dieu a dit. La parole des hommes peut être retirée, les plans modifiés, mais les plans des hommes, mais Dieu dit, mon dessein s'accomplira. Le conseil des païens est de toute manière réduit à néant. La promesse que je vous ai faite, pas que quelqu'un, et non, pas quelqu'un de quelconque, mais que je vous ai fait solennellement lors de votre sortie d'Égypte, demeure. Il relit le verset 5 de Agé 2. Et mon esprit agit au milieu de vous. Au moment où Dieu porte sa parole à son accomplissement, l'esprit de Dieu commence à agir parmi la troupe rachetée par le sang. La parole et l'esprit de Dieu deviennent toujours ensemble. Donc agissent toujours ensemble, sont toujours ensemble. Là où il y a la révélation de la parole parmi le peuple de Dieu, cette révélation a eu lieu par l'esprit. Car c'est seulement l'esprit qui révèle toutes choses, sonde même les profondeurs de la divinité. Là où l'esprit de Dieu n'agit pas, la parole est interprétée, expliquée dans toutes les directions, sans que l'on puisse y trouver une véritable révélation de la volonté de Dieu. Et en particulier le sixième verset. Car ainsi parle l'Éternel, Agé 2, verset 6, des armées. Encore un peu de temps. Il y a des traductions que j'ai décrites ici, et cette fois-ci, cela a été inséré. Après quoi vient le temps de la brièveté. En effet, cela n'arrivera pas plusieurs fois. Des centaines de fois. Cela arrivera une seule fois. Comme cela est arrivé au début, c'est ainsi que cela se reproduira à la fin. C'est tout. Et ce que Dieu fera sera unique, incompréhensible ce sera compréhensible, si, mais ça ne pourra pas être imité. C'est ce que je voulais dire. Les hommes veulent toujours imiter. Dieu fera une œuvre unique, bref, mais puissante, par grâce. C'est ce qu'ont prédit les prophètes, et c'est ainsi que cela se passera. Il est dit ensuite, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et la terre ferme. On pourrait lire beaucoup de choses à ce sujet, même dans le même chapitre, Agé chapitre 2, verset 30. Ici il est écrit, après cela, la parole de l'Éternel fut Agé 2, verset 20, fut adressée à Agé pour la seconde fois, le 24e jour du mois, en ces termes. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai les trônes des rois, verset 22, et j'anéantirai la puissance des royaumes païens. Je renverserai les chars de guerre et ceux qui les montent. Devrions-nous encore continuer à lire là-dessus? Devrions-nous continuer à lire à ce sujet? Tout cela montre déjà ce qu'Armageddon apportera. Le règlement de compte final, lorsque Dieu ébranlera vraiment tout et que les rochers et les montagnes seront déplacés ici et là et que le Seigneur réglera son affaire avec l'humanité. Il y a là des passages bibliques merveilleux et on pourrait probablement en parler jusqu'à demain matin et même plus longtemps. Mais lisons Agé 2, du verset 15 pour en venir au sujet que nous avons déjà traité hier soir et ce matin. Agée chapitre 2, verset 15. Mais maintenant, dès aujourd'hui, faites attention à ce qui est arrivé depuis ce jour. Donc, parfois, nous pouvons regarder à ce qui s'est passé. C'est ce qui est dit ici dans la Bible. Avant qu'on ait posé pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Au verset 16. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Si l'on venait alors à un tas de gerbes, de 20 boisseaux, probablement, il n'y en avait que 10. Et si l'on venait au pressoir, dans l'espoir d'y puiser 50 seaux, il n'y en avait que 20. Et quand était-ce le moment? Qui sait? Je vais vous lire quand est-ce que c'était. Nous devrions regarder en arrière. Il est écrit ici de regarder à ce qui s'est passé. Parfois, on a le droit de le faire, pas dans l'incrédulité, mais pour constater ce qui nous est arrivé à l'époque où nous n'étions pas dans la volonté de Dieu. Et pour cela, le frère Baranowski me l'a dit déjà auparavant. Je l'avais déjà dit, j'avais déjà épinglé ce paragraphe, cette parenthèse ici, cette page. Il en a parlé en Afrique. Agée chapitre 1 à partir du verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Agée 1, verset 2. Ce peuple-là dit le temps de rebâtir le temple de l'Éternel n'est pas encore venu. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète en ces termes. Est-ce le moment pour vous-même d'habiter vos maisons lambrisées, tandis que cette maison est en ruine? Il y en avait aussi qui disaient que le temps n'était pas encore venu. Et puis la parole du Seigneur est venue. Le temps est-il venu de vous asseoir à la belle table dans vos maisons? Ou bien le temps est-il venu de bâtir la maison du Seigneur et de vous asseoir à la table du Seigneur pour recevoir en vous la nourriture du Dieu vivant? Et cela va encore un peu plus loin. Il est dit ici, au verset 6, vous avez semé abondamment. Mais vous avez produit médiocrement. Vous avez bien de quoi manger, mais ce n'est pas assez pour vous rassasier. Vous buvez, mais vous n'étanchez pas votre soif. Oui, dites-moi, n'est-ce pas un peu près notre critère jusqu'à aujourd'hui? Soyons honnêtes, nous mangeons et nous avons toujours faim, nous buvons et nous ne sommes pas rassasiés. Quelque chose n'est pas encore comme Dieu le voudrait. Quelque chose n'est pas encore comme il devrait être. S'il vous plaît, soyons honnêtes, nous sommes juste réunis ici devant Dieu et nous sentons que Dieu a encore plus pour nous, qu'il veut bénir, qu'il veut vraiment ramener son Église à l'état originel, comme au commencement, et c'est ce qu'il va faire. Nous avons semé abondamment, mais nous n'avons pas récolté aussi abondamment. Nous avons mangé, Dieu merci, nous ne sommes pas morts de faim, nous avons mangé, mais nous n'avons pas été rassasiés. Nous avons bu, mais notre soif n'a pas été totalement étanchée. Mais maintenant le Seigneur a fait la promesse que les choses allaient changer. Et nous en sommes reconnaissants. Dieu peut en effet tout changer. Cela va encore plus loin ici dans le même verset. Vous avez bien de quoi vous vêtir, mais personne n'en a bien chaud. La deuxième partie du verset 6. Et celui qui travaille pour un salaire accumule le salaire dans un sac percé. Et quelle était cette époque? Une époque où chacun bâtissait sa propre maison, s'asseyait à sa propre table et faisait ses propres affaires, un peu comme à l'époque de Jésus. Hein? Construisons trois tentes. Nous n'avons pas besoin de trois tentes. Nous n'avons pas non plus besoin de différentes constructions, différentes, une pour toi, une pour moi. Ce dont nous avons besoin maintenant dans le royaume de Dieu, c'est de la construction de Dieu, du bâtiment de Dieu. Pas qu'un frère fasse une chose pour lui et l'autre frère encore une chose pour lui. Ce dont nous avons besoin, c'est de mettre notre main à l'œuvre de Dieu, à la même œuvre de Dieu. c'est-à-dire à l'œuvre que Dieu lui-même et de collaborer à l'édifice que Dieu construit lui-même et que personne ne construise plus pour soi-même. Une chose, vous savez, quand on y pense, on est déjà saisi par toute la misère et la grande tristesse de tout ce qui s'est passé dans cette génération. Combien de directions différentes ont été prises. Tout ce qui a été bricolé et construit et bâti à juste titre. Et la maison du Seigneur, le temple de Dieu, l'église a été déchirée, justement divisée par de tels bâtisseurs. Chacun construit sa propre chose, bâtit sa propre chose, son propre royaume au sein du royaume de Dieu. Et la maison du Seigneur, elle, est en ruine. Dieu mettra un terme à toutes ces choses. Il réclame maintenant les siens. Il les a rachetés à un prix précieux. Il les a rachetés. Ils lui appartiennent et il entre dans sa maison. Ils ont leur place dans sa maison, dans son œuvre. Il a construit, il a bâti lui-même. Il ne fait que prendre ceux qui, ici sur terre, peuvent et font ce qu'il leur donne de faire. Rien d'autre. Le chapitre 1 d'Agé est également important, et plus précisément les versets 12, 13, donc versets 12 et 13. Alors Zorobabel, fils de Zéaltil, Josué, fils de Sotzatak, le souverain sacrificateur, Agé 1, verset 12 maintenant, et tous ceux qui restaient du peuple écoutèrent l'avertissement de l'Éternel leur Dieu, c'est-à-dire les paroles d'Agé le prophète, qui, tel qu'ils le reconnaissaient, leur avaient été envoyés par l'Éternel leur Dieu. Oui, le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Alors Agé, le messager de l'Éternel, autre tradition dit ici, l'ange éternel. Alors Agé, le messager de l'Éternel, en vertu d'un message divin, fit cette révélation au peuple. Fit cette révélation au peuple. Je suis avec vous, telle est la déclaration de l'Éternel. Dieu a donné un message prophétique au moment où quelque chose d'extraordinaire devait se produire dans l'histoire du salut. Et c'est effectivement produit. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la première venue de Christ. C'est exactement ce qui se passe dans cette génération. Pas de supposition, pas d'interprétation, mais une parole prophétique placée au milieu du peuple de Dieu. Une orientation spirituelle, un enseignement divin, afin que chacun sache à quoi s'en tenir. Nous aussi, nous avons reconnu que ce ne sont pas des hommes qui ont parlé de leur propre chef, mais des hommes de Dieu, des hommes saints de Dieu, poussés par le Saint-Esprit, ont proclamé la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu entendent la parole de Dieu. Et tous ceux qui font maintenant partie du peuple de Dieu ne peuvent s'empêcher de croire au message divin, à sa parole auparavant cachée, mais maintenant révélée, car c'est en elle qu'est révélée que nous avons été mis à jour dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, en considérant que le temps est venu de s'accomplir, en considérant que le temps était arrivé pour que la parole s'accomplisse. Quand le temps fut accompli, ici, ils disent, avez-vous dit, serait-ce le moment de vous asseoir à vos propres tables, dans vos propres maisons, à une table bien garnie, ou est-ce le moment de bâtir ensemble la maison de l'Éternel, la maison de Dieu? Je le dis, ainsi, le temps est venu de voir la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, de la voir reconstruite, rebâtie dans son état originel, comme nous l'avons déjà observé ce matin. Je voudrais lire encore quelques passages à ce sujet. Le premier passage est tiré du chapitre 8 d'Esra, versets 22 et 23. Peut-être la dernière partie du verset 22, puis aussi le verset 23. Esdras, chapitre 8, pardon, chapitre 8, verset 22. La main de notre Dieu est sur tous ceux, la deuxième partie du verset 22, qui le cherchent pour leur salut. Donc, pour notre salut, quand nous cherchons Dieu, sa main est sur nous. Je répète encore. La main de notre Dieu est sur tous ceux qui le cherchent pour leur salut. Mais sa puissance et sa colère atteignent tous ceux qui l'abandonnent. Nous avons donc jeûné et imploré le secours de notre Dieu dans cette affaire. Et il s'est laissé implorer par nous. En lisant toute l'histoire, on constate quelle détresse s'est abattue sur le peuple de Dieu, combien d'obstacles ont été placés sur son chemin, des menaces et toutes sortes de choses. Mais Dieu était avec eux. Oui, sa main veillait sur eux et les protégeait de sorte que tout s'est bien passé. Je lis le chapitre 10 d'Estra, chapitre 10, verset 1, et là aussi ça me semble important dans ce contexte, Estra chapitre 10, verset 1. Tandis qu'Estra priait ainsi et faisait sa confession de repentance en pleurant et en se prosternant devant la maison de Dieu, une foule très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants se rassembla autour de lui. Car le peuple avait éclaté en de violents pleurs. Bien-aimés, au moment où Dieu fait quelque chose, tous sont saisis, vieux et jeunes, grands et petits, qui que nous soyons. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à agir, tous seront... Lorsque l'Esprit de Dieu commencera à agir, tous seront impliqués dans cette action. Permettez-moi de lire le premier chapitre de Néhémie. Toutes ces choses sont liées et constituent une leçon pour nous. Et je lis un passage de Néhémie spécialement pour ceux qui pensent qu'ils n'ont jamais été en captivité. Ils viennent d'une maison de croyants, ils sont déjà consacrés au Seigneur, ils ont grandi dans la foi. Permettez-moi maintenant de lire une parole pour nous. Dans l'Écriture sainte, vous savez, il y a une réponse pour chaque situation, pour chaque circonstance, pour tout. Il y a une réponse. Et nous la trouvons maintenant dans Néhémie. Au premier chapitre et plus précisément au verset 2. Hanani, l'un de mes frères, vint me trouver avec quelques hommes de Juda. Je m'informais auprès d'eux des Juifs qui étaient restés dans leur patrie et qui avaient échappé à la déportation ainsi que de la situation à Jérusalem. Ils m'informèrent, ceux qui sont restés et qui ont échappé à la captivité là-bas dans la province sont dans une grande misère et dans une situation honteuse. Pas seulement ceux qui ont été pris dans la captivité étaient dans la détresse, mais ceux qui sont restés se trouvaient aussi dans une situation douloureuse. Parfois, nous pensons effectivement et regardons les autres et nous pensons, oui, bien sûr, ils ont ceci et cela à faire. Nous aussi, nous sommes concernés. Tout le monde est concerné. Tout le peuple de Dieu, qu'ils soient partis ou restés en arrière, tous ont été touchés de telle ou telle manière, pris en captivité ou bien restés. Il est dit ici, sont dans une grande misère et dans une situation honteuse. La deuxième partie du verset 3 de Néhémie 1, les murailles de Jérusalem sont démolies et les portes de la ville sont brûlées par le feu. À quoi leur servait-il même d'être restés? Même si la maison de Dieu et les murailles de la ville étaient toutes détruites. Quand ont-ils retiré qu'ils aient été emmenés en captivité ou qu'ils soient restés en arrière? La détresse s'est abattue sur tous. Et c'est ainsi que nous l'avons compris et saisi. La détresse s'est abattue sur l'ensemble de l'Église. On peut avoir été déporté ici ou là, ou avoir été emprisonné à Babylone, ici ou là, ou ne pas l'avoir été. La détresse nous a tous touchés de la même manière. Parce que la maison du Seigneur, parce que l'église, parce que le temple, parce qu'une destruction a eu lieu. Et une nouvelle reconstruction doit avoir lieu par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si nous lisons tous l'Ancien Testament, mais là, j'aime vraiment me répéter. Dans l'Ancien Testament, les ombres, les images de ce qui avait, de ce qui allait arriver en réalité ont été données par grâce dans l'Ancien Testament pour tous ceux qui veulent le voir et en faire l'expérience. Il est dit ici encore, sont dans une grande misère et dans une situation honteuse, les murailles de Jérusalem sont démolis. La dernière partie du verset 3 de Néhémie 1, et les portes de la ville sont brûlées par le feu. Le verset 4, madame. Ayant entendu ces communications, je me suis assis par terre et je me suis mis à pleurer. Et j'ai porté le deuil pendant des jours avec des jeûnes et des supplications continuelles. Et j'ai adressé au Dieu des cieux la prière suivante. Et je ne lirai pas la prière entière. Mais le verset 8 dit, le verset 8... Ah, Seigneur, souviens-toi de la promesse que tu as faite à Moïse, ton serviteur, en ces termes. Si vous êtes infidèle, je vous disperserai parmi les peuples. Le verset 9. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, quand bien même ils se trouveraient des dispersés parmi vous à l'extrémité des cieux, je les rassemblerai de là et les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Au début, nous avons lu dans le prophète Agée qu'il a été dit que la promesse que Dieu a faite à son peuple au commencement, lors de leur sortie d'Égypte, demeure. Ici, l'homme de Dieu se réfère également à cette époque et rappelle au Seigneur dans sa prière qu'il a lui-même promis lorsque son peuple serait dispersé jusqu'aux extrémités de la terre que lui-même, il ramènera son peuple, il le ramènerait et le ramènerait et le reconduirait. Et c'est là que cet homme de Dieu dit, ah, souviens-toi de la promesse. Le début du verset 8 de Néhémie 1. Je crois que notre Seigneur, et pardonnez-moi si je le formule maintenant de manière un peu humaine, mais que rien ne lui est proche que lorsque nous lui présentons les promesses avec foi et amour dans la prière et que nous disons, Seigneur, tu as pourtant promis, tu l'as pourtant dit, nous croyons ce que tu as dit et ce que tu as promis. Souviens-toi des promesses que tu as faites et vous verrez, Dieu devra bouger son bras, car il n'agit que conformément à ce qu'il a promis. Et si nous lui rappelons ses promesses, alors il doit agir. Il ne peut pas faire autrement. Combien de fois l'avons-nous dit ici? La vraie foi est ancrée dans les promesses de Dieu. Il n'y a pas d'autre point dans lequel la vraie foi pourrait être ancrée que dans les promesses de Dieu. Et ici, il nous est doublement affirmé que Dieu se souvient des promesses qui ont... Que Dieu se souvienne. Il nous a dit ici que Dieu se souvienne dans sa prière, dans la prière de l'homme de Dieu. Que Dieu se souvienne des promesses qu'il a données au commencement, et il s'en souviendra. Et s'il a dit qu'il ébranlera encore une fois le ciel et la terre, alors il doit le faire. N'interprétez pas cette parole « doit » comme si vous donne Neurier un ordre à Dieu. Personne ne peut lui donner d'ordre, mais il est lié par sa parole. Les Écritures ne peuvent pas être brisées et annulées. Son dessein doit se réaliser. Ce qu'il a promis est certain et se réalisera. Dieu y veillera lui-même. Permettez-moi de poursuivre la lecture du prophète Néhémie, extrait du chapitre 2 maintenant. Néhémie chapitre 2, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez la misère dans laquelle nous nous trouvons, à savoir que Jérusalem est en ruine et que ses portes sont détruites par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem afin que nous ne soyons plus un objet de moquerie. Ils savaient très bien que tant qu'ils seraient dispersés en captivité, sans muraille, sans mur d'enceinte, sans temple, sans rien de tout cela, ils seraient la risée, la moquerie des autres. Mais à partir du moment où l'état initial, primitif, antique, est rétabli, ils ne sont plus une moquerie. À ce moment-là, le monde entier a du respect pour ce peuple, car Dieu est avec lui. Il en va de même pour nous maintenant. Nous avons beaucoup semé, peu récolté. Nous nous sommes étendus, cela n'a pas suffi. Nous avons mangé, nous sommes restés sur notre faim, nous avons bu, notre soif n'a pas été étanchée. Mais Dieu a l'abondance. Il veut encore une fois manifester cette abondance dans son Église rebâtie. Il veut restituer, restaurer tout ce qu'il a promis. Et ce qu'il a fait au commencement, il veut le faire à la fin. Il le fera à la fin. Pouvez-vous le croire? Ça, je peux le croire. Car c'est ainsi qu'il a promis. Et c'est ainsi que cela se fera. Maintenant, écoutez ce qui est encore écrit dans Néhémie au 3e chapitre. Néhémie chapitre 3. Peut-être que nous lisons le verset 33. Et le verset 34, lorsque, en français, c'est chapitre 4, verset 1, chapitre 4, verset 1. Lorsque Sanballa apprit que nous avions réellement rebâti la muraille, il entra dans une colère et un ressentiment violent et se moqua des Juifs. En disant en présence de sa tribu, et des soldats de Samarie. Que font là les Juifs impuissants? Avez-vous lu? Chapitre 4, verset 2 de Néhémie en français. Que font là les Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Offriront-ils un jour des sacrifices? En viendront-ils à bout un jour? Feront-ils revivre les pierres pourtant brûlées? Des tas de décombres? Ici, c'est écrit faire revivre. Faire revivre. Et nous, comme des pierres vivantes, nous devons être ajoutés à l'édifice de Dieu. En tant que pierre vivante, maintenant un incirconcis, un incroyant, un non-croyant demande, oui, regardez donc ces Juifs impuissants. Tout est en ruine. Les pierres sont brûlées. Est-ce que quelqu'un les rendra-t-il vivantes? C'est-à-dire, les reformera-t-ils? Seront-elles un jour à nouveau utilisables? Pourront-elles un jour être réutilisées? Il s'agissait encore d'une moquerie de cet homme. Et je pense ici à la parole du prophète Ézéchiel. Lorsqu'il a vu les eaux mortes et que la question s'est posée, fils de l'homme, est-ce que ces eaux mortes peuvent-ils revivre, revenir à la vie? La réponse fut donnée humblement. Seigneur, tu le sais, Seigneur. Et soudain, la réponse arriva. Parle à ces eaux mortes pour qu'ils retrouvent la vie. Et il prononça la parole du Seigneur et ils reprirent la vie, une grande foule. Est-ce que les pierres qui sont en ruine, en décombre, brûlées, peuvent-elles être rendues utilisables? Peuvent-elles être rendues vivantes? Peuvent-elles être reconstruites? Oui, par Dieu, oui, avec Dieu, tout est possible. Oui, et encore une fois, oui. Et même si nous sommes tous aussi misérables, même si nous avons tous été déformés, notre Dieu peut nous rendre tout à nouveau, conforme, sans manque ni absence de quoi que ce soit, de tout ce qui existait au début. La question était en effet de savoir comment cet tas de gravats pourrait redevenir des pierres vivantes. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui peut rendre la vie de ce que Satan a détruit, anéanti et transformé en tas de gravats. Dieu peut faire quelque chose de nouveau, quelque chose de merveilleux. Et nous faisons toujours bien de ne pas nous regarder nous-mêmes et de ne pas regarder à nous et à notre état, mais de rendre vraiment gloire au Seigneur dans la foi et de lui faire entièrement confiance. L'incrédule parle. Que font là ces Juifs impuissants? Mais qu'est-ce que ça veut dire impuissant? Ici, le mot impuissant vient de sans puissance. C'est seulement deux mots mis ensemble. Que nous soyons sans puissance, ça nous le savons. Mais que nous avons un Dieu tout-puissant, ça nous le savons aussi. Ils n'ont rien besoin de plus. Nous ne disons pas ici, nous avons, nous pouvons, non. Mais nous disons, Seigneur, nous sommes ici. Nous ne le pouvons pas. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire? Et nous l'avons ressenti, n'est-ce pas, douloureusement. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons déborder des hordes d'ennemis, sauter par-dessus les murs. Avec lui et grâce à lui, nous pouvons être et nous serons des vainqueurs. Aucun des revenus où n'est resté de ce tas de décombres où les Juifs impuissants se retrouvent maintenant. La situation était la même pour les deux parties. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous en tirons la leçon. Que nous soyons restés ou que nous ayons été faits prisonniers, la situation est la même. La maison du Seigneur est en ruine, est allée en ruine. Mais la question qui est posée ici peut bien trouver une réponse. Que font les Juifs impuissants? On pourrait dire oui. Que veut ce petit groupe là-bas qui s'imagine avoir reçu une grâce particulière de l'Éternel? Vous savez comment les gens parlent? Ils disent, si c'est une chose qui venait de Dieu, si elle venait de Dieu, alors, n'est-ce pas, le pape et le monde entier en parleraient. Et les médias en feraient état. On parlerait, combien de fois je l'ai entendu cela? Oui, on n'a jamais entendu parler de cette chose. Vu comment cela se fait-il? Oui, je me le demande aussi. Il est grand temps que les gens en fassent l'expérience, que cela soit, que les gens soient informés. Ne vous y trompez pas. De même qu'il était connu de tous les peuples qu'il y avait eu une captivité, il était connu aussi que le peuple de Dieu était revenu, que l'Éternel était avec eux, que les constructions avaient été achevées et que le Dieu des cieux était de nouveau avec son peuple d'Israël. De même, il doit être manifeste en ces jours que nous ne sommes pas n'importe qui, mais l'Église du Dieu vivant revenue et reconstruite, rebâtie, non pas une association pieuse, religieuse avec une nouvelle orientation, mais le corps du Seigneur lui-même, des pierres vivantes de l'édifice saint, du Dieu saint. Et revenons à ce texte. Je le lis pour ne pas utiliser mes propres mots. Et plus précisément, le verset 34. Donc la deuxième partie du verset 2, du chapitre 4 de Néhémie. Que font là les Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Point d'interrogation. Offriront-ils un jour des sacrifices? Point d'interrogation. En viendront-ils à bout à un jour? Point d'interrogation. Feront-ils revivre les pierres pourtant brûlées des tas de décombres? Point d'interrogation. Un point d'interrogation l'un après l'autre. Mais Dieu a mis un point d'exclamation tout à fait clair dans tous ces points d'interrogation humains. Mais de manière tout puissante, il a confirmé sa parole parmi son peuple et a rendu possible l'impossible. Et la même chose va se produire ces jours-ci. On peut tranquillement dire qu'il y a un petit groupe qui croit, qui comprend maintenant correctement la parole de Dieu et qui pense être spécial. Nous ne pensons rien du tout. Nous croyons seulement comme l'a dit l'Écriture et nous nous sentons honorés que Dieu nous ait visités avec tant de grâce. Qu'il nous ait considérés comme les plus petits dans la grâce. Nous les plus petits, il nous a accordé la grâce, n'est-ce pas, de croire vraiment comme dit l'Écriture. Et là, nous nous en réjouissons et nous sommes reconnaissants de ne pas avoir erré dans différentes directions, mais dans la direction divine, avoir suivi, avoir marché, et que nous persévérons patiemment jusqu'à ce que l'heure de Dieu sonne, et que l'édifice de Dieu se dresse devant nos yeux, et que le Seigneur puisse se révéler à nouveau au milieu de nous. Tous ces points d'interrogation, que font les Juifs impuissants? En viendront-ils à bout? Offriront-ils un jour des sacrifices? Rendront-ils la vie aux pierres? Ce n'était pourtant pas aux Juifs de le faire et d'agir. C'était au Dieu du peuple d'Israël de le faire qui a rendu tout cela possible. Est-ce qu'on nous demanderait, si on nous demanderait aujourd'hui à moi ou à nous ici, pensez-vous que vous allez y arriver? Bonté divine, nous répondrions immédiatement. Nous n'avons même pas encore commencé à y arriver, mais nous nous mettons à la disposition de Dieu. Et il peut même faire des vases qui ont échoué auparavant. Il peut en faire des vases utilisables. Nous avons souvent dit cela. Comme cela a été montré au prophète Jérémie, dans la ville où l'atelier du potier, il devait y aller. Et il a vu comment le maître potier fabriquait un vase. Je dois dire très honnêtement que j'aime tous les métiers. Je n'en connais aucun réellement, mais celui que je préfère, c'est le tour de potier. J'ai observé plusieurs fois avec un enthousiasme intérieur, pleinement, comment le vase est façonné. C'est tout simplement majestueux de voir la motte s'écraser sur ce disque et c'est parti. Il suffit de savoir comment le doigt et les mains sont faits et soudain la chose devient de plus en plus grande et prend forme. Et avant même de s'en rendre compte, on se retrouve avec une cruche de cette taille. Et on se dit, oui, attendez, c'était un instant, ce n'était qu'une masse ici, un peu une masse. Et maintenant, ça je l'ai vu plusieurs fois. Hein? N'est-ce pas? Même une fois en Israël, n'est-ce pas? Oui, même en Israël. Nous avons visité un atelier de potier. Mais j'ai vu d'autres choses. J'ai vu des pays là, ils sont spécialistes. Ils vivent de ça. Et c'est une chose tellement merveilleuse que cela se produise. Notre Seigneur a dit au prophète Jérémie, entre dans un atelier de potier. Je veux parler avec toi. Et qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Un vase était raté, avait échoué et le potier l'a encore cassé. Quand toi et moi cassons un vase, surtout s'il était précieux, nous sommes désolés, n'est-ce pas, ou une assiette, car elle est cassée pour toujours. Mais si c'est le Seigneur qui le fait, il n'est pas cassé pour toujours. Sous sa main, le solide peut redevenir souple, devenir une masse qu'il peut remodeler. Et cela, c'est ce que le prophète a vu, a été témoin de cet acte. Lorsque nous brisons quelque chose, il reste des morceaux. Lorsque le Seigneur brise, il reconstruit. Puis il recommence, il reforme. Il peut faire d'un vase qui est pour le déshonneur, un vase qui est pour sa gloire. Combien de passages pourrions-nous encore lire ici? Je suis fortifié par toutes ces paroles bibliques, par l'action de Dieu. L'important n'est pas que des hommes se soient particulièrement distingués, mais que le peuple de Dieu est reconnu à un moment donné ce qui devait justement se produire dans leur époque, dans le plan de Dieu. Et qu'il ait approuvé ce plan de Dieu là et se soit laissé entraîner et joint et inséré dans ce plan de Dieu. C'est ce qui compte. Et c'est ce qui compte encore aujourd'hui. Non seulement de savoir ce que Dieu a promis, mais aussi de se mettre à sa disposition et de dire, Seigneur, quelles que soient les remarques des hommes, cela ne doit absolument pas nous déranger. Nous savons ce que tu as promis. Et nous savons aussi nous-mêmes que nous sommes impuissants, que nous ne pouvons rien. Mais nous savons tout autant que le Seigneur est tout puissant. Et ce n'est vraiment pas le moment que chacun maintenant soit occupé à bâtir sa propre maison. Je parle maintenant spirituellement. Sur terre, nous avons tous nos maisons ou nos appartements. Je parle de l'édifice de Dieu, de l'église du Seigneur qui forme un seul corps que Dieu nous accorde. Donc, maintenant, la grâce à nous et à tous ceux qui font partie de son peuple de reconnaître maintenant qu'il n'est plus temps que l'un bâtisse son groupe et que l'autre suive à nouveau sa propre direction et que chacun suive la sienne, n'est-ce pas, sa direction. Ce n'est pas le temps de suivre ses propres voies et de construire ses propres constructions. Cela n'a pas suffi. Nous avons bu, nous n'avons pas été... Et la soif n'a pas été étanchée. Nous avons mangé, nous n'avons pas été rassasiés. Maintenant, tout cela doit changer. J'espère que Dieu nous entendra et que le temps du changement est arrivé. Dans notre pays, le terme « tournant » est devenu un mot ridicule, n'est-ce pas, comme on veut le comprendre. Mais nous parlons vraiment d'un tournant divin. Le temps est venu de ne pas s'occuper de sa propre affaire, mais de sa propre chose. Mais comme frère Rousse l'a entonné aujourd'hui, l'œuvre est celle du Seigneur, l'œuvre dans laquelle nous nous tenons. Et si je ne savais pas à 100% que c'est l'œuvre de Dieu dans laquelle nous sommes, je serais assez vrai et sincère pour fermer ma Bible et aller de l'autre côté à la maison. Mais parce que je sais que c'est l'œuvre de Dieu à laquelle nous nous tenons, que tous les autres ferment les portes, laissent Dieu agir et se soumettre tous à Dieu pour qu'enfin le corps du Seigneur se rassemble vraiment, soit ensemble et que les pierres puissent être retirées de tous les décombres et que le Seigneur puisse les rendre vivantes. C'est ce qui me plaît le plus dans ce texte. Juif impuissant, Dieu tout puissant. Les pierres brûlées, inutilisables, peuvent-elles revenir à la vie? Oui, elles peuvent redevenir vivantes parce qu'il y a un Dieu vivant qui bâtit un temple vivant. Et ce temple vivant, c'est son Église. Et c'est à lui de faire vivre. Notre Dieu fait vivre. Il nous fait vivre par grâce. Il nous vivifie, nous rend joyeux. Non pas en tant qu'être humain qui reste ici et disent comment allons-nous jouer des harpes de Dieu sur un sol étranger? Nous ne sommes plus en terre étrangère. Nous sommes revenus. Nous pouvons entonner la louange de Dieu. Nous pouvons croire que c'est le jour que Dieu a vraiment fait. Lorsque le peuple d'Israël était encore à Babylone, les moqueurs passaient et disaient, « Oui, chantez-nous maintenant vos louanges de Sion. Prenez donc les harpes des murs. Jouez pour nous et chantez pour nous. » Ils n'ont pas joué, ils n'ont pas chanté. Qu'avez-vous dit? Qu'ont-ils dit? Comment pouvons-nous chanter les chants de notre Dieu sur un sol étranger? Ils sont restés silencieux. Mais quand ils sont revenus, voulez-vous que je vous le lise, ce qui s'est passé? La terre entière a tremblé, a retenti. Il s'est vraiment passé quelque chose d'extraordinaire. Parce que tout le peuple qui avait vu auparavant le temple dans sa forme originelle l'a vu maintenant reconstruit. Et vous pouvez lire ce qui s'est passé. Je lis les chapitres 8 de Néhémie, ce texte connu de nous tous, que nous avons souvent lu, et aussi ici, la deuxième partie du verset 9. Ce jour est saint pour l'Éternel, votre Dieu. J'ai dit Néhémie 8, la deuxième partie du verset 9. Ce jour est saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas tristes et ne pleurez pas, car tout le peuple s'était mis à pleurer en entendant les paroles de la loi. Puis il poursuivit. Allez manger des aliments gras et buvez des boissons sucrées. Et donnez aussi des portions à ceux pour qui rien n'a été préparé. Car le jour est saint pour notre Seigneur. Ne vous découragez donc pas, car la joie dans l'Éternel est votre force, et notre force. Les Lévites calmèrent tout le peuple en disant, soyez tranquilles, car ce jour est saint, et ne vous découragez pas. Alors tout le peuple alla manger et boire, verset 12, et donner des portions aux nécessiteux et célébrer une grande fête de joie, parce qu'ils avaient compris les paroles qui leur avaient été communiquées. Amen. Amen. Il n'est plus nécessaire d'en dire quoi plus à ce sujet. Ils avaient compris les paroles qui leur avaient été lues. Ils avaient compris ce que Dieu faisait au milieu d'eux. Et déjà, ils allaient manger et boire. Auparavant, ils avaient mangé, n'avaient pas été rassasiés, avaient bu, et cela ne suffisait pas. Partout, un manquement. Maintenant, l'abondance. L'heure de Dieu avait sonné. Ne craignez pas, le Seigneur est avec vous. Nous croyons que Dieu est vraiment avec son peuple. S'il n'est pas avec ceux qui l'aiment, qui le croient, qui obéissent à sa parole et qui observent sa parole, qui la suivent, avec qui est-ce qu'il devrait être? Non, Dieu est avec nous. Et nous persévérons, nous restons patients jusqu'à ce jour glorieux où toutes les pierres qui ont été retirées de toutes les décombres seront rendues vivantes et assemblées pour former un saint édifice de Dieu. Et Dieu dit à ce sujet par le prophète Zacharie, ce ne sera pas par honneur ou par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce aura lieu, dit l'Éternel, pas la puissance, pas mon esprit. Nous devons nous attendre à une action puissante et une fusion puissante de l'esprit. Et j'y crois de tout cœur. Le plus faible sera alors comme David et le plus fort comme l'ange du Seigneur lui-même, comme l'ange de l'Éternel lui-même. C'est ainsi que c'est écrit dans la parole prophétique. Nous faisons bien de lire toutes les promesses. Alors la joie surgit, la certitude s'installe. Nous avons alors la consolation et la confiance en notre Seigneur. Ce qui a été apporté ici ce week-end de la parole de Dieu est béni pour nous tous, pour ceux qui vont l'entendre. C'est le jour que le Seigneur a choisi. Il veut se manifester à nouveau. Il envoie sa parole. Il veut se manifester à nouveau. Il envoie sa parole à l'avance pour nous faire savoir ce qu'il a l'intention de faire. Puis ensuite, sa parole suit. Et elle brille là où les hommes croient sa parole. Et il confirme sa parole à ceux en ceux qui la croient, qui l'ont reçue dans la foi. Et il en fait une réalité divine en eux et pour eux. Et elle devient une réalité vivante. Que personne ne parle des croyants impuissants, mais du Dieu Tout-Puissant. Que personne ne se demande ce qu'il en viendra et comment cela finira-t-il et comment cela peut-il continuer. Mais que chacun dise, ce jour est consacré à l'Éternel, est saint à l'Éternel, à lui la gloire et la louange, maintenant et dans toute éternité. Pouvez-vous le croire? Amen. Dieu est encore sur le plan et tout lui est soumis. Amen. Levons-nous et rendons gloire au Seigneur. Chers frères et sœurs, nous avons entendu des précieuses paroles de Dieu et nous avons aussi entendu que le peuple de Dieu, les Juifs, ont été méprisés et dédaignés. Il se peut qu'il en soit de même pour nous en ces jours. Mais nous devons tenir compte d'une chose, ils n'ont rien donné de ce que leurs ennemis et leurs adversaires disaient. Ils n'ont pas tenu compte de cela, de ce que leurs adversaires disaient et affirmaient. Mais ils ont cru à leur Dieu et aux promesses qui leur avaient été faites par les prophètes. Et ils ont placé leur confiance dans le Seigneur. Ils regardaient à celui qui était leur secours. Il en va de même de nos jours. Je voudrais vous appeler tous. Si l'ennemi s'approche de vous et vous dit ce qu'ils vous disent, vous n'avez pas besoin de le percevoir, de le recevoir. De toute façon, ils ne sont pas sur le bon chemin. Je vais vous dire quelque chose. Nous ne suivons pas notre propre chemin. Nous suivons le chemin du Dieu vivant. Et nous ne voulons rien avoir à faire avec ces imposteurs et ces bavards qui s'approchent. Mais nous leur montrons le chemin afin qu'ils retournent d'où ils viennent. Chers frères et sœurs, nous ne le disons pas ainsi. L'ennemi est venu pour détruire les croyants. Ils peuvent venir dans une peau d'agneau, si beau, si croyant, si bien informé. Mais bien aimé, nous n'avons pas besoin d'être mieux informés et non plus de personnes qui sont mieux informées. Et Dieu non plus n'a pas besoin de telles personnes. Nous avons besoin de croyants en la parole vivante de Dieu. Ça, c'est notre force et notre puissance. Et c'est pourquoi je vous demande, vous verrez que l'ennemi s'approchera. Il essaiera de vous détourner du chemin de Dieu. Mais soyez sur vos gardes et pensez que le Seigneur vous a parlé et qu'il est devenu pour nous tous. Il est devenu toute chose pour nous tous et en nous tous. Frères et sœurs, si Dieu parle, l'ennemi s'efforce lui aussi de faire son œuvre. Nous l'avons vu dans les Écritures. Lorsque les Israélites ont commencé, les Juifs, l'ennemi était déjà là. Alors que rien n'avait été commencé. Il n'était donc pas là non plus. Mais quand tout a commencé, il était là. Et il en va de même de nos jours. Dieu a commencé et il fait son œuvre. Et alors l'ennemi sera là, lui aussi. Gardons cela à l'esprit. Mais vous pouvez lui résister. Tout comme notre Seigneur lui a résisté. Regardez aussi comme en nos jours du Seigneur. Quand il a commencé à travailler, à agir, l'ennemi s'est levé. Mais qu'en était-il de lui? Il lui a résisté en disant, et avec la parole, l'ennemi est venu aussi avec la parole. Il est venu aussi avec la parole. Mais Jésus a pu dire qu'il était de nouveau écrit. Et ainsi l'ennemi a dû céder. Chers frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi ces paroles me sont parvenues maintenant par grâce. Mais je devais les dire, car cela va certainement arriver. Je vous en prie, soyez tous sur vos gardes. Des gens vous approcheront et vont commencer à vous inculquer quelque chose, à interpréter des choses. Mais souvenez-vous, nous avons écouté la vraie parole de Dieu et que c'est elle qui fait autorité. Loué soit et la gloire et la magnificence soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Adorons le Seigneur. Dieu fidèle, nous te remercions du fond de notre cœur pour la parole puissante, pour tes promesses, pour tout ce que tu nous offres par grâce au Seigneur. En ce temps, en cette heure, où nous sommes arrivés, Seigneur, tu auras une troupe qui résistera, Seigneur, à l'ennemi. Seigneur, comment ces jours-là? Oh Seigneur, ils ont commencé à louer alors ton nom. Ils ont pu s'en réjouir parce que tu leur as attribué la joyeuse assurance, Seigneur, qu'ils n'avaient plus besoin d'être tristes, mais qu'ils pouvaient se réjouir en ta présence. Et ils ont pu manger, ils ont pu boire, ils ont pu se réjouir en leur Dieu qui a réalisé la promesse. Amen. En leur temps. Alléluia. Seigneur, nous aussi, nous pouvons nous approcher. Nous pouvons manger et nous pouvons boire. Nous pouvons nous réjouir en ta présence parce que nous sommes ton peuple. La troupe de ta main. Parce que tu as racheté de ton sang, l'ennemi n'a aucun droit sur ton peuple, Seigneur. Gloire à ton nom et grâce à toi. Alléluia. Gloire et adoration. Alléluia. Reçois l'honneur, la gloire et l'adoration. Toi, vainqueur de Golgotha, nous t'adorons pour cette précieuse grâce, pour cette heure de grâce où nous sommes édifiés par ta parole toute puissante. Seigneur, gloire à toi et honneur et adoration au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.